Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, une émission aujourd'hui avec des films en salle depuis le 9 juin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors vous, deux films bien différents. Toi, Manu, c'est un succès des Oscars, trois Oscars.
Et puis surtout aussi le Lion d'Or à Venise avec Nomadland de Chloé Zhao.
Et toi, Guillaume, tu aurais pu nous parler du Discours, film adapté du roman de Fab Caro, mais tu as préféré t'abstenir pour parler d'un film de frousse.
Bah oui, j'ai préféré Les démons de Conjuring 3, Sous l'emprise du diable de Michael Chavez.
Et quant à moi, je vous parlerai de L'oubli que nous serons, film de Fernando Trueba. C'est un film sur un docteur colombien et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial médecin à l'écran. À noter que nous entendrons Fernando Trueba, c'est la première interview de ce renouveau du cinéma et on est très content que ce soit le réalisateur espagnol. Ainsi débute Cinérama avec bien un road movie hein, sur des retraités sans sous vivant dans leur van. Nomadland est reparti de la cérémonie des Oscars avec trois trophées.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Ma mère dit que vous êtes sans abri, c'est vrai ?
Non, je suis pas sans abri. Disons plutôt sans maison. T'en fais pas, tout va bien. Mon mari a travaillé à USG, la mine de gypse à Empire, et j'ai enseigné à l'école comme institutrice.
Les temps sont durs actuellement. Je vous invite à envisager une retraite anticipée.
Je dois travailler. J'aime travailler.
Comment tu l'as appelé ton van ?
Vanguard.
L'avant-garde, c'est puissant.
C'est tout lui.
Tu es ma sœur. Au fur et à mesure que tu grandissais, tu passais pour une excentrique aux yeux de la plupart. C'était parce que tu étais plus courageuse.
Véritable bête de festival, hein, ayant remporté donc trois Oscars, hein, mais aussi le Lion d'Or à Venise, hein, Nomadland débarque enfin sur nos écrans, auréolé d'une réputation plus que flatteuse, hein, certains n'hésitant pas à le comparer à du Terrence Malick. Alors on fait pire comme référence, enfin tout dépend du niveau d'admiration que l'on porte à l'auteur de La Balade sauvage. Alors derrière la caméra officie la nouvelle coqueluche du cinéma américain indépendant, hein, Chloé Zhao, née en Chine, expatriée à l'âge de 15 ans en Angleterre, puis aux États-Unis, la jeune cinéaste a vu sa cote monter en flèche très rapidement avec ses deux premiers longs métrages, Les chansons que mes frères m'ont apprises et The Rider. Alors deux manifestes hein, rendant hommage un peu aux losers d'Amérique, aux perdants magnifiques comme l'écrivait Leonard Cohen dans son livre éponyme. Elle poursuit dans son nouveau film cette route cabossée hein, du côté de la marginalité, celle des petites gens qui souffrent dans un contexte socio-économique qui ne joue pas en leur faveur à l'intérieur d'une Amérique très éclatée, loin de la représentation citadine véhiculée par les médias et un certain type de cinéma dominant. Hein. Elle dresse le portrait des hobos, ces nomades qui traversent les territoires des États-Unis avec leurs caravanes, sans attache particulière. C'est sans domicile fixe, hein, d'invique de ville en ville, sans jamais vouloir s'y installer, acceptant des petits boulots intérimaires, hein, motivés par un désir de liberté dans un monde de plus en plus régi par les contraintes. Elle s'attache particulièrement au destin de Fern, hein, qui, après la mort de son mari, prend la route à bord de son van et adopte le mode de vie de ces nomades, en rupture avec le modèle dominant.
Ça nous fait, en comptant pièces et main-d'œuvre, un total de 2 300 $ okay. Sans les taxes.
Je viens de regarder la cote de votre van. Avec un kilométrage aussi élevé à la vente, vous en obtiendrez 5 000 $, au grand maximum.
Je vous conseillerais plutôt de... Je vous conseillerais de mettre l'argent dans un lot de véhicules que...
Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, vous voyez, parce que... D'accord. J'ai investi du temps et beaucoup d'argent pour aménager l'intérieur du van et... Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que ça représente, mais c'est quelque chose qu'on peut... Je vis dedans. C'est mon chez-moi.
inattaquable sur le fond, hein, tant les intentions sont louables, le film de Chloé Zhao, tout comme ses précédents, peine un peu à convaincre. Elle emprunte une direction assez voisine de Kelly Richards, hein, sans l'âpreté et la puissance d'incarnation des films de cette dernière. Alors Zhao pêche par excès de sentimentalisme, une volonté ostensible de vouloir bien faire à chaque plan, soigneusement cadré jusqu'au maniérisme. La forme contemplative prend des allures de tic de mise en scène. Alors Nomadland, parangon d'une certaine idée du cinéma indépendant, idéal pour une sélection à Sundance, hein, demeure extrêmement fabriquée dans sa représentation du réel. Alors tout est appuyé pour faire vrai dans cette manière trop visible de filmer des vrais gens qui s'expriment dans un parler vrai, dans des vrais lieux. Alors ce désir hybride, hein, d'articuler fiction et documentaire sans jamais choisir, se délite, hein, la faute en partie à un scénario lisse et prévisible, prenant le parti d'une bienveillance constante. L'héroïne, hein, freine dans sa grande traversée des paysages américains, perpétuant l'esprit des pionniers en quelque sorte, ne va rencontrer que des gens formidables, humbles et attentionnés, quelles que soient leurs conditions. On a l'impression d'assister à une sorte de western moderne et social plombé par un regard sensible, mais fuyant la moindre altérité ou contrariété. Une sorte de road movie, hein, pour Bisounours. Ne nous y trompons pas d'ailleurs, hein, le film est produit par une filiale de Disney, appauvrissant nettement le potentiel politique au cœur du sujet. Alors c'est bien dommage, hein, même le jeu tant loué de Frances McDormand paraît chargé, trop étudié pour convaincre. Alors elle s'est visiblement totalement investie, hein, elle joue très très bien. Là n'est pas la question, c'est qu'on voit le jeu à l'écran, on ne voit pas vraiment le personnage. Enfin, moi, le personnage, je n'y ai pas tout le temps cru. Hein. Elle souvent parasite. En fait, sa performance parasite l'ensemble. Hein. Elle a toujours le regard comme ça, plein d'empathie. Elle se mord souvent les lèvres et puis ses yeux sont souvent aussi au bord des larmes. Alors, la fascination, hein, de la réalisatrice pour les gueules cassées et son décor mythique, quasi mythologique, donne lieu cependant à des remarquables séquences. Hein. Elle réussit à esquisser des portraits touchants de personnages authentiques. Elle filme très bien les paysages. Alors, lorsqu'elle évite, par contre, les couchers de soleil, un peu trop nombreux à mon goût. Alors, mais ces jolis instants sont gâchés aussi de façon récurrente, alors par une musique sirupeuse au piano et cordes de Ludovico Einaudi, hein, qui sabote le potentiel émotionnel, hein, par ses pénibles mélodies.
J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux.
Bref, une fois de plus, une déception de la part d'une cinéaste très talentueuse pourtant et d'une sincérité désarmante, dépassée peut-être par un cahier des charges encombrant, typique de ce à quoi doit ressembler un film d'auteur américain produit par un studio et exportable dans le monde entier. Alors une fois encore, l'adage « les bons sentiments ne font pas forcément de bons films » s'avère ici assez pertinent et je sais que le film a été très très bien reçu, d'autant plus que j'ai été assez déçu en fait.
Nomadland de Chloé Zhao avec Frances McDormand fait partie des films qui sont en salle depuis le 9 juin, tout comme L'oubli que nous serons de Fernando Trueba, chronique familiale teintée de films politiques. Et on va avoir l'occasion d'écouter le réalisateur espagnol.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
L'oubli que nous serons de l'espagnol Fernando Trueba est l'adaptation d'un best-seller en Colombie qui porte le même titre. Et l'auteur est le fils du docteur Héctor Abad Gomez, assassiné à Medellín en 1987. Le livre est l'éloge du fils à son père, médecin humaniste, militant des droits de l'homme, nous explique Fernando Trueba. Et c'est aussi la chronique qui vient d'une grande famille composée de 6 enfants. Et en dernier lieu, transparaît l'ambiance de Medellín, quartier que l'on connaît trop bien pour son rapport aux narcotrafiquants. Alors pour faire simple, nous sommes d'abord dans les années 70 avec le médecin Héctor Abbas Gomez, un professeur d'université qui veut instaurer une vraie politique de santé publique mais qui se heurte à un pays eh bien, mal en point politiquement. Nous faisons des allers-retours entre son bureau, sa visite des quartiers populaires et puis son foyer. Mais ce dernier reste le lieu où Fernando Trueba aime rester. Il choisit la chronique familiale plutôt que le film politique. Le réalisateur nous parle de ce qu'il pouvait faire cinéma dans ce roman. Mais avant d'écouter Fernando Trueba, une petite précision. Il y a eu un petit problème de prise de son à ce moment-là. Je tiens à m'excuser.
Après un temps, j'ai commencé à considérer la possibilité, comment est-ce qu'on pourrait le faire. Et en même temps, j'aimais tellement le personnage, j'aime tellement ça. Mais surtout, il me fallait trouver où était le cinéma dans tout ça. Non, et une fois que je me suis rendu compte que même s'il y avait une partie politique et tout ça, ça ne serait jamais un film politique, j'ai rien contre. Il y a les films politiques, il y en a qui j'aime bien, mais ce n'est pas mon genre. Que ce ne serait pas un film politique ou historique, sinon un film d'amour, vraiment. Je le voyais un peu comme ça. Alors, j'ai commencé à voir le film que je voulais faire. Et un film sur quelque chose à laquelle je suis assez sensible, qui est le choc entre la beauté, la bonté, et la violence et l'horreur. Non, c'est un choc qui se déroule chaque jour devant nos yeux, partout dans le monde. Non, donc c'est quelque chose d'éternel, non, depuis qu'on a commencé à écrire avec les Grecs là. On n'arrête pas de raconter des histoires que dans le fond, c'est que ça. Non ?
Une fois que le réalisateur espagnol a trouvé ce qui faisait cinéma, il a ensuite mis l'enjeu de son film dans la famille.
Il y a quelque chose qui m'a obsédé, comme j'ai appartenu à une famille nombreuse aussi. Ça m'a obsédé créer la famille. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une famille et il y a plusieurs sœurs ou plusieurs frères, tu vois qu'il y a certains rôles et certains physiques même. Non, c'est pas la même chose être l'aîné qu'être le petit, qu'être le deuxième. Le deuxième, c'est quelque chose de particulier toujours. Le troisième a ses caractéristiques aussi. Donc, j'ai choisi ça en cherchant ce que je voulais pour chaque personnage et en même temps construisant cette espèce d'ensemble aussi. Non, c'est comme quand tu as fait un quartet, tu as besoin de la viola, du violon, du cello et tout ça. Non, donc ça a été très beau à faire.
Le film évoque plusieurs périodes. Hein. Il y a celle de l'enfance du narrateur, puisque l'unique fils de la famille, c'est le romancier. Et puis la vie d'adulte avec des rapports père-fils forcément bien différents.
J'aimais l'idée de donner forme cinématographique à quelque chose, un film qui parle du bonheur, comme d'une espèce de paradis de l'enfance et tout ça. Et aussi de la perte de ces paradis. Non ?
Il s'agit d'un film espagnol tourné en Colombie. Alors bien sûr, il n'y a pas eu de problème avec la langue, hein, mais le réalisateur a fait son casting avec des acteurs colombiens, tous impeccables.
Il y a une chose qui a été, je pense, a été très bien, c'est mon ignorance de l'industrie colombienne. Donc quand j'ai voyé des acteurs, quand j'ai fait un casting en Espagne, je sais que cet acteur est millionnaire, que cette autre personne le connaît, que celui-là est fameux par la télévision, que cet autre fait de la publicité, que celui-là c'est un acteur de théâtre. Non, j'étais là et j'étais vierge, je ne savais rien. Donc j'ai choisi les acteurs parce que j'ai trouvé qu'ils étaient bien pour l'histoire, non, pour le personnage.
Seule exception à ce casting colombien, Javier Camara, l'un des grands comédiens espagnols. Le réalisateur voulait trouver quelqu'un qui avait le rire en lui, hein, car le médecin colombien était toujours souriant, et donc il est allé vers l'acteur espagnol.
Même si j'avais vu de très bons acteurs, mais Javier Camara avait une chose incroyable, à part que il y a une ressemblance et tout ça, mais surtout, ce qui était pour moi important, c'était la joie du personnage.
On a toujours l'impression qu'il rit, en fait.
Oui, le personnage, il était comme ça, il était un homme qui riait, qui dans tous les... Quand j'ai fait la recherche pour les films, j'ai eu accès à toutes les photos de la famille, de tout ça, et les journaux, tout ça. Cet homme, en 95% des photos, il était en train de rire, avec une rire scandaleuse, merveilleuse, non ? C'était un homme plein de vie et d'amour à la vie.
Alors, chose amusante, comme il s'agit d'un film colombien, eh bien, il s'ouvre sur Scarface, un succès qui a donné une mauvaise image de la Colombie.
J'ai ouvert le film avec cette image de Scarface, qui est un des films responsables de l'image des latino-américains, toujours comme les mecs, les méchants, les narcos, l'assassin, tout ça. Pour après aller dans une autre Colombie, dans une famille qui est comme nous.
L'oubli que nous serons n'est pas un mauvais film, hein, mais c'est pourtant un film qui, faute de rythme, s'appesantit, notamment vers la fin, dans une séquence volontairement dramatique et bien trop tire-larme. Il n'empêche que Fernando Trueba s'en sort bien pour décrire cette famille aimante, irradiée par un médecin humaniste, vaguement idéaliste, qui, malheureusement, eh bien, va se heurter au monde tel qu'il est dans une société colombienne loin d'être pacifiée. Alors, le film pourrait même faire écho aux événements actuels qui frappent la Colombie, mais il n'en est absolument rien. Voilà, L'oubli que nous serons de Fernando Trueba est à voir dans les salles depuis le 9 juin. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec eh bien, des films où sont présents des médecins. C'est la reprise d'un blind test qu'on avait déjà donné il y a quelques années. Voilà, c'est parti.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Voici un premier extrait, c'est un film qui peut-être sera facile.
Vous soignez jamais personne, je sais pas comment vous faites. Moi, c'est pour ça que je fais réa, tu vois. Parce qu'à chaque nouveau malade, t'as un défi. Ça passe ou ça casse, t'es dans l'action, tu vois. Si le mec, il crève, bah, c'est pas de ta faute. Si tu le sauves, t'as assuré.
Attends, ça n'a rien à voir. Justement, en médecine interne, t'as affaire à des vrais patients, à des vrais gens. Tu t'occupes d'eux, vraiment, t'as une relation avec eux. Genre, tu leur parles, et des fois, ils sont tristes, des fois, ils sont heureux. Toi, t'arrives, c'est des corps, quoi. Tu réanimes, et puis c'est tout. Tu bzz, pop, allez, hop, il est réveillé, allez, maintenant, je vais en réanimer un autre, quoi.
Mais comment tu te la racontes, mon gars, c'est chaud.
Je viens du mal.
C'est trop pour le héros, parce que
tu te la racontes, vas-y, me parle pas.
Alors, ça a été trouvé.
C'est Hippocrate.
Oui. Alors on sent le côté un peu naturaliste, voire réaliste, enfin je ne sais pas trop, entre les deux, de Thomas Lilti, film de 2014. Benjamin commence sa carrière de médecin par un stage en tant qu'interne dans le service que dirige son père. Mais malgré son enthousiasme initial, il est mis à rude épreuve dans sa découverte de la réalité du métier auquel il se destine. À noter que Thomas Lilti est ancien médecin, donc voilà, ça aide à construire des dialogues et des séquences comme on vient d'entendre. Ensuite, il fera médecin de campagne en 2016 et puis première année en 2018, plus la série Hippocrate. Voilà, n'en jetez plus, on dirait qu'il est vraiment spécialisé. Hein,
c'est l'Olivier Marchal des hôpitaux, c'est ça ?
C'est ça. 950 000 entrées en France, ça a très bien marché, contrairement à ce film qui a un peu moins bien marché.
Le premier texte que j'ai rédigé, c'était dans Médecine Utopique, pour exhorter mes confrères à ne pas se limiter au sein des femmes et à regarder ce qui se passe dans le slip des hommes. Le cancer des testicules, bien sûr, mais aussi l'hypospade, les bourses vides, les bourses qui gonflent. Le phimosis, le kyste du cordon, la décoloration de la peau, les mycoses, la baisse de sensibilité du nœud. J'ai relu l'article et je me suis dit, mais qui peut bien avoir envie de regarder tout ça ?
Vous ne savez pas comment c'est, les femmes !
Trouvé !
C'est la maladie de Saxe ?
Alors oui.
Michel Deville ?
Oui, de Michel Deville avec Albert Dupontel. Là, bon, c'était un gros indice, comme cet extrait. Confronté à la souffrance, à l'angoisse, à la violence des rapports humains, à tout ce qui rend malade le docteur Saxe, révolté contre l'arrogance du savoir médical et le sentiment de son insuffisance, tombe malade de lui-même. Alors, ce sont les patients qui font le portrait du médecin dans ce film. Et puis, il y a une phrase vraiment, vraiment excellente. Le nom des maladies sont donnés à ceux qui les découvrent, mais pas à ceux qui en meurent. Voilà. 310 000 entrées en France. Troisième extrait de ce blind test consacré au film avec des médecins.
Capitaine Œil de Lynx, Pierce, j'ai reçu une note qui vous concerne. Il paraît que vous avez volé une Jeep au QG.
Ah non, c'est une erreur, je ne l'ai pas volée. Elle est là, dehors. Là.
Ah oui, c'est exact. Mais, capitaine Forrest, vous ne savez pas que quand vous vous présentez à une nouvelle affectation, vous devez d'abord aller voir votre supérieur.
Et le capitaine Pierce. Mm-hmm. Le capitaine Pierce et moi, on a un peu picolé, alors ça nous a donné de l'appétit.
Oui, je comprends, c'est... oui. Vous revenez du front. Oui, en ce moment, ici, c'est peut-être un peu calme, mais quand ça se déclenche, nous avons plus de boulot en 24 heures qu'un chirurgien.
Bon, dites-moi, il y a combien d'infirmières ici ?
17, oui.
Très bien, et moi, j'en aurai combien ?
4. Qu'un civil n'en
alors,
a...
Je vois jeune, là, comme
oui, en un mois. Je crois que ça doit pouvoir s'arranger.
J'en ai besoin. Et je veux aussi la petite blonde, là.
Capitaine Melkaté.
J'ai pas fini.
Trouvé.
Et c'est MASH de Robert Altman.
Oui, film de 1970. Les lettres MASH signifient Mobile Army Surgical Hospital, donc unité chirurgicale de campagne. Nous sommes en Corée face à des jeunes chirurgiens antimilitaristes qui aiment l'alcool et les femmes, et qui sont donc à l'hôpital militaire mobile où ils sèment plutôt la pagaille. 3,6 millions d'entrées en France. Ça a très bien fonctionné pour ce film de Robert Altman. Quatrième extrait de ce blind test.
De qui parlez-vous ?
De votre nouvelle protégée.
Mais vous parlez d'une malade. Nous ne sommes pas au cirque.
Mais c'est bien vous qui déclenchez ces crises, non ?
Je déclenche ces crises pour étudier les symptômes, rien de plus. Vous pensez sérieusement que je peux créer des maladies ? Avez-vous déjà vu des gravures du XVIe siècle représentant des possédés ?
Ce n'est pas la question.
Répondez-moi !
Non.
Ces gravures montrent exactement la même chose que ce que nous pouvons voir à l'hôpital. Ces filles qu'on a brûlées pour sorcellerie pendant des siècles n'étaient que des malades. Moi, je ne cherche qu'une chose. Comprendre.
Trouver.
Augustine.
Oui, film de Alice Vinocourt, film de 2012 avec Vincent Lindon qu'on entend ici. Nous sommes durant l'hiver 1885 à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse, c'est l'hystérie. Et Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori. La vedette de ses démonstrations d'hypnose et d'objet d'étude, eh bien, deviendra peu à peu objet de désir. Et là, c'est seulement 170 000 entrées en France. Il en a eu 4 fois plus pour ce dernier film du blind test.
Écoute, docteur, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Je sais pas ce que c'est pas simple à définir, mais c'est insidieux. Il y a en toi du schizophrène, quelque part. Par moments, je t'aime énormément, tu sais. Et par moments, tu as un coup plutôt distrayant, mais pas plus. Et j'arrive pas très bien à saisir. Pourquoi ?
Ah, je pensais que ce serait trompé.
C'est un film de genre, hein, en
alors,
plus.
Alors pourquoi, elle dit que c'est insidieux et pourquoi elle a tant de mal à définir ce qui ne va pas quand elle se retrouve avec le personnage
C'est pas un Dr Jekyll ou quelque chose.
Non, alors il s'agit... Bon, là, si je donne cet indice, ça va être trop facile. Il s'agit de deux jumeaux.
Faux-semblant.
Ah oui.
Oui, faux-semblant.
Film ouais, de... mais avec la VF, c'est hyper dur.
Ah,
en fait,
bah, faut s'en tenir au propos, ouais. Manu.
Mais même.
Film de 1988 de David Cronenberg, évidemment. Beverly et Elliot Mantel, deux gynécologues réputés, sont de vrais jumeaux hein, qui partagent tout leur appartement, leur clinique et les femmes. Et lorsque Claire consulte Beverly, celui-ci tombe amoureux d'elle et refuse de la partager. Et c'est parti pour une descente vers la folie. À noter que dans ce film, il y a deux jumeaux, donc, mais aussi une trifidée, donc la fameuse patiente, qui a un utérus divisé en trois cols. Et puis là, ben, je vais encore tirer une phrase hein, de ce film. C'est pas une phrase tirée du film, mais c'est une phrase qu'a pu dire à David Cronenberg en faisant la promotion de ce film. Je pense que les organes mériteraient qu'on leur fasse des concours de beauté. 600 000 entrées en France. Il y a même un bonus pour vous, messieurs.
J'ai réussi avec un sérum de mon invention que je leur ai inoculé à redonner la vie à un certain nombre de lapins, cochons d'Inde, des chats et chiens. J'ai prolongé leur vie au-delà des 12 minutes. J'ai vaincu la mort cérébrale.
Trouvé.
C'est Reanimator de Stuart Gordon.
Eh oui, librement inspiré de la nouvelle Herbert West, Reanimator. Et donc, film sorti en 85, film évidemment de genre. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc aux médecins, à l'écran. Et maintenant, c'est plutôt la frousse à l'écran. Les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren ont beau en avoir vu, mais une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique fait partie de leur plus gros dossier. C'est Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Et c'est toi qui nous en parles, Guillaume.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je crois que j'ai blessé un homme.
Ici Ed Warren, je suis avec Lorraine. Allez, on commence.
Ces dernières années, il n'y a pas que la maison Marvel qui a été prolixe dans son système de production. L'histoire nous a appris que le cinéma fantastique et d'horreur a toujours été particulièrement vif, faisant fi des modes, des courants et des bouleversements. Ce ne sont donc pas les deux gagnants de ces 15 dernières années, Jason Blum et James Wan, qui vont dire le contraire. Le premier parce qu'il a l'origine de la maison de production Blumhouse, qui vampirise le box-office mondial, et le second parce qu'il doit justement son second souffle à Blumhouse après les échecs commerciaux qui ont suivi l'énorme carton de Saw en 2004. Lorsque Jason Blum lui permet de faire Insidious en 2010, James Wan ne sait non seulement pas encore qu'il va en tirer une nouvelle franchise lucrative, mais qu'il va en plus en inspirer pour créer un système de production qui va n'avoir de cesse de s'étendre autour d'un seul film. Ce film, ce sera Conjuring en 2013. Si le film qui nous intéresse aujourd'hui est la seconde suite du film d'origine, il faut compter les spin-offs Annabelle et ses suites, La Malédiction de la Dame Blanche ou encore La Nonne dans l'univers officiel, ce qui fait de Conjuring 3 le 8e film de la série. Toutes ces extensions sont motivées par l'incroyable bestiaire qui gravite autour des deux véritables héros de la saga Conjuring, à savoir Ed et Lorraine Warren. Les époux Warren sont un couple spécialisé dans les sciences occultes et qui ont dédié leur vie entière à essayer de sauver celle des autres, âmes moins averties que les leurs sur l'au-delà, la vie après la vie et les mauvaises rencontres que l'on peut y faire. Ed fait office de prêtre, tandis que Lorraine met à la disposition de tous ses talents de clairvoyance. Tous les deux sont liés par un amour indéfectible et une foi totale en leur mission d'investigateur du paranormal. Et justement, c'est d'amour dont il va être question dans ce nouvel épisode.
Les habitants de Brookfield sont sous le choc d'avoir appris le meurtre en plein après-midi de Bruno Solz.
La cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable.
Conjuring sous l'emprise du diable, ou en version originale The Devil Made Me Do It, donc le diable m'a forcé à le faire, est le premier des trois films officiels à ne pas être réalisé par James Wan, mais par Michael Chavez. On reste toutefois en famille, parce que c'est lui qui est derrière les rênes de La Malédiction de la Dame Blanche. Le changement de réalisateur fait aussi changer de décennie, car après la très chouette escale dans la banlieue londonienne de 1977, nous voilà de retour aux États-Unis au tout début des années 80. Nouvelle décennie, mais même ambiance et même règle. La scène d'introduction se charge de nous rappeler les influences premières de l'équipe créative avec un plan très évocateur du père Gordon, mallette en main, qui sort d'un taxi pour faire face à la maison témoin du mal. On aura bien évidemment reconnu le clin d'œil plutôt bien vu à l'affiche de L'Exorciste, le film séminal de William Friedkin de 1973. La possession, il en est ici aussi question et même plus, car l'intrigue de « Sous l'emprise du diable » tourne autour des suites de la possession du petit David Johnson, qui ne va pas s'arrêter à la fuite du démon de son corps. Alors, suite à l'intervention musclée des époux Warren, le petit David est sauvé, mais le démon, profitant d'une cacophonie et d'une panique générale qui manque de tuer Ed, prend possession de son grand frère Arnie sous la demande expresse de ce dernier. Ce sacrifice d'amour, qui passe d'abord inaperçu, car tout le monde pense que la situation est redevenue normale, va se manifester d'une façon bien tragique, puisque quelques jours plus tard, le démon va forcer Arnie à tuer quelqu'un d'une trentaine de coups de couteau. Arnie est donc bien évidemment arrêté et va être jugé sous peu pour ce geste qu'il n'a pas accompli de sa propre volonté, mais les Warren vont essayer de tout faire pour prouver son innocence. Va s'engager un bras de fer étonnant et unique dans les annales de l'histoire de la justice. Arnie va plaider non coupable pour cause de possession démoniaque. L'enjeu est de taille, car si les Warren n'arrivent pas à amener des preuves solides, Arnie pourra y laisser et la vie entre les mains du démon qui le ronge, et la vie ici-bas, car il risque la peine capitale. Mais comme l'a si bien dit Ed, si la cour reconnaît l'existence de Dieu quand on prête serment vu qu'on jure sur la Bible, il serait temps qu'elle reconnaisse aussi l'existence du diable.
Je ne sais pas ce qui va arriver, mais tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était pas Arnie.
C'est un totem de sorcière. On pense que votre famille a été maudite et que cet envoûtement est toujours actif.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité.
Je vois des choses que les autres ne peuvent pas voir.
Pour autant, on est loin d'un film de procès comme le pas très excitant à L'Exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson, d'ailleurs lui aussi passé depuis dans l'écurie Blumhouse pour signer le très chouette Sinister. Non, ici on suit les Warren en direct qui vont donc remonter tant bien que mal l'histoire de la maison où le démon a pris possession de David avant qu'il ne s'en prenne à Arnie. Les péripéties vont s'enchaîner jusqu'à l'attendu coup de théâtre et c'est là que le bas blesse, c'est qu'on s'en fiche un peu. Le spectacle est de qualité et démarre sur des chapeaux de roue, mais plus l'intrigue avance, plus on se focalise sur deux personnages en particulier, et uniquement eux, les Warren. On ne dira jamais assez que, au-delà de composants évidents, comme le réalisateur, le scénariste ou le directeur de la photographie, un acteur peut être tout à fait aussi vital pour assurer la bonne tenue d'un film. Et là, le couple Patrick Wilson et Vera Farmiga font encore une fois un sans faute. C'est sans doute dû au fait que, et pour une fois, cette appellation n'est pas éculée dans un film d'horreur, ce film est inspiré d'une histoire vraie et que Vera Farmiga a passé énormément de temps avec la vraie Lorraine avant qu'elle ne meure récemment. Ce couple, on y croit, on les aime, on tremble pour eux comme dans les autres films et ils nous amènent toujours au cœur de ce récit. Une histoire d'amour très forte qui dure depuis plus de 30 ans et qui ne sera non pas perturbée par l'assaut répété des forces du mal, mais au contraire consolidée par cette volonté d'apporter un peu de lumière dans les ténèbres. À l'époque où nous vivons, c'est toujours plaisant de voir un personnage qui a foi en l'autre et sans aucune once de cynisme. Ce n'est donc pas étonnant qu'on prenne toujours autant de plaisir, malgré la qualité variable des scénarios, à les retrouver pour de nouvelles aventures.
Conjuring est sur les écrans depuis le 9 juin.
This is Cinerama.
On ne se quittera pas sans rappeler que la 23e édition du Très Court International Film Festival s'achève le 13 juin. C'est l'occasion de voir des courts de moins de 4 minutes, titres et génériques inclus. Alors on trouve une compétition internationale, une compétition parole de femme et puis d'autres sélections hors compétition. Il y a 62 lieux de projection dans le monde entier et puis 11 en France. C'est le cas notamment à Chambray-les-Tours, à Cluny, à Die, à Draguignan, Pays de Morlaix et puis Saint-Paul-les-Dax. Toutes les informations et la programmation, c'est sur trèscourt.com.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
Messieurs, vous avez déjà vos films pour la semaine prochaine.
Eh bien, le nouveau Guirici, Un homme en colère.
Et puis toi, Guillaume ?
Et moi, c'est la suite de Sans un bruit, hein, le film de John Krasinski.
Encore de la frousse.
C'est ça, toujours.
On vous parlera aussi de La Nuée et de Douce France. À la semaine prochaine.